allons lire Apocalypse chapitre 2 à l'église d'Éphèse, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, vous voyez, il faut avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit Saint qui débouche les oreilles. C'est l'Esprit Saint qui tire les écailles sur les yeux. C'est l'Esprit Saint qui fait comprendre ce que Dieu veut. Mais le problème, vous allez voir, c'est que si l'Esprit Saint le fait savoir, il y a des gens qui, dans les églises qui acceptent, qui s'inclinent et qui acceptent l'autorité de la parole du Christ et de l'Esprit Saint, et d'autres sont rebelles. Le troupeau n'est pas homogène. Le peuple de Dieu n'est pas homogène. Donc, pour la première église, nous l'avons dit dimanche passé, le gros point, c'est la perte d'une communion avec Jésus. Une perte d'une communion qui est forte. Ce n'est plus qu'une église qui tourne sur elle-même, qui est croyante, qui pratique ce qu'elle pense bon pour Dieu. Et ça, c'est fort classique. Hein? C'est fort classique. Et pourtant, les messages que Jésus a donnés aux apôtres sont évidents. Hein? Dans l'évangile de Marc, on ne va même pas aller voir, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, quand Jésus est sur la montagne, qu'il appelle des disciples et qu'ils viennent à lui, il les appelle pour être avec lui. Le mot en grec, c'est koinonia, c'est-à-dire être en communion avec lui. Ensuite, pour distribuer la bonne nouvelle, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection pour les péchés, le salut par grâce. Troisième chose, guérison des malades. Quatrième chose, chasser les démons. Dans les courants, les derniers courants qui ont un peu de succès, on inverse les choses. On inverse les choses, on veut les signes spectaculaires, chasser des démons, etc., guérir des malades, dont des langues, etc. Or, on voit bien dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, que Jésus a dit, « Vous m'avez dit, Seigneur, 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 mais rien de moi, je ne vous ai pas connu, vous avez vécu dans l'iniquité, vous n'avez pas fait volonté de mon Père. » Jésus donne cet avertissement-là dans Matthieu 7, 21. Donc, l'essentiel est d'avoir une relation d'amour avec le Christ et d'aimer ce qu'il dit et de le mettre en pratique. C'est le cœur de l'Église, c'est le cœur de la vie du chrétien. Et cette grande Église, qui est extrêmement impressionnante par ses beaux côtés, hein, je vous le rappelle au verset 2, elle a supporté les méchants, elle ne peut pas supporter les méchants, elle sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Elle a éprouvé les vrais apôtres et les faux, elle a la persévérance, elle a souffert à cause du nom de Jésus, elle ne s'est pas découragée, mais elle a abandonné sa relation essentielle d'amour. Et pratiquement, il y a une chose, il faut savoir une chose, c'est que c'est une chute spirituelle. On ne peut pas être chrétien sans avoir un véritable amour pour le Christ. Le véritable amour pour le Christ est le signe de la vraie foi. Si vous n'avez pas, si je n'ai pas cet amour, tous les jours, qui m'amène à faire sa volonté, je ne suis pas le chrétien que Dieu veut et je ne suis pas quelqu'un qui rentrera dans son paradis. C'est clair. Et ça va au point, c'est sévère, que l'Église, je retirerai cette Église de... J'ôterai le chandelier de sa place. Vous voyez ça au verset 5. Effectivement, il n'y a plus d'église évangélique chrétienne à Éphèse, c'est l'islam. Et vous pouvez prendre tous les pays un après l'autre, l'islam s'est implanté comme ça. Après, Dieu a permis, et Dieu permet l'extension de l'islam, comme un signe de punition, de sa colère sur le monde chrétien. Je le prends comme ça. Moi, je n'ai aucun problème avec l'islam, parce que je pense que s'il tombe de la pluie ou il n'en tombe pas, Dieu sait pourquoi. S'il y a plus de chrétiens dans une région et qu'il s'implante des musulmans, Dieu sait pourquoi. Je n'ai qu'à prier et m'attacher à mon Seigneur Jésus. Le problème est autre part. Alors, dans cette église, bien sûr, il y a aussi le rejet des œuvres des Nicolaïtes. C'est-à-dire, on ne rejette pas les Nicolaïtes, mais leurs œuvres, leurs actions. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne vivent pas en ordre au niveau de la sexualité et du mariage et qui sont dans l'église. et qui pensent être chrétiens parce qu'ils ont la grâce et ils ont la foi. Mais la foi sans les œuvres, dit Jacques dans son épître, c'est une foi morte. Donc il y a une dénonciation par tous les apôtres au premier siècle d'une foi qui n'est pas conforme dans ses actions, dans ses comportements, avec la volonté de Dieu. Et même c'est Jésus qui l'avait dit. Donc ça, c'est une première église. Mais l'Esprit Saint est là. Pourquoi ? Pour convaincre de péché, convaincre de sainteté, convaincre de rédemption. L'Esprit Saint est là, à l'œuvre dans l'Église, pour convaincre. Un chrétien qui n'a pas, et ne se laisse pas travailler par le Saint-Esprit pour être convaincu qu'il a tort dans certaines choses de sa vie, et qui ne se laisse pas modifier par le Saint-Esprit, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'issue pour la vie éternelle. Il peut faire autant de prières qu'il veut. Il faut faire attention. L'Esprit Saint est le maître d'œuvre de l'Église. Et il a pour tâche, comme c'est mis dans Jean chapitre 14 et au chapitre 16, de nous rappeler ce que Jésus a enseigné, de nous le remettre en mémoire, de nous le dire, et même de l'expliquer plus, et nous convaincre de péché. C'est-à-dire, il nous montre chaque fois quand quelque chose est dans la volonté de Dieu ou ne l'est pas. Et il nous amène à une autre conviction de justice, c'est-à-dire d'obéissance à Dieu. Et troisième chose, de sainteté, de rédemption, à marcher dans le salut qui nous est donné, qui nous est offert. Comme dit Paul, je cours dans la carrière qui m'a été offerte. Hein? Donc, c'est un acte de conviction, d'engagement, de réponse à Dieu. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne, c'est un appel et c'est une réponse. Vocare, la vocation, c'est un appel et une réponse. Donc, c'est fondamental, la première église paraît belle, elle n'est pas en ordre. La deuxième, on en a parlé l'autre jour, c'était l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie, donc le Christ. Je connais ta tribulation, ta pauvreté. Donc, c'est une église qui a beaucoup souffert. Et les calomnies de la part de ceux qui disent juifs, qui ne le sont pas, qui sont de synagogue de Satan. Pourquoi est-ce que c'est si sévère et si dur ? Parce que c'est le même Christ qui a parlé dans Jean chapitre 8. C'est le même Christ dans l'Apocalypse qui parle à l'apôtre Jean et qui s'adresse à l'Église. Et c'est le même qui a parlé, Jésus a parlé lui-même. Quand, dans Jean chapitre 8, voilà ce que Jésus dit. Parce aux personnes qui sont là, aux religieux, verset 44, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui, Jean 8, 44, hein. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Donc, vous avez dans Jean chapitre 8 une confrontation extrêmement dure avec tous les responsables religieux. Et tous les prophètes avaient déjà eu avant Jésus cette expérience d'un conflit qui parfois pouvait finir par le meurtre du prophète. Ou son exil, etc. Ou son tabassage. C'était pas marrant pour quelqu'un d'être envoyé par Dieu dans son propre peuple. Je pense que ce n'est pas encore marrant aujourd'hui. Alors, pratiquement, au chapitre, dans Apocalypse, chapitre 2, ces synagogues, ces lieux où les juifs se réunissent, ils respectent des lois, ils respectent des règles, un aspect physique, un vêtement, etc., tel style de prière, mais ils n'ont aucun amour de la grâce, de la mort de Jésus à la croix, et même, ils ne lisent pas Ésaïe 53. Le chapitre de l'Ancien Testament, Ésaïe 53, n'est pas lu dans les synagogues. C'est un juif messianique qui m'a dit ça. Ils refusent que la parole leur dise que Dieu a offert son Fils pour les sauver. Ils veulent se sauver par leur mérite. Et c'est un acte d'orgueil. C'est la religion de Caïn qui offre des sacrifices à Dieu. Ce n'est pas la religion d'Abel qui accepte le sacrifice de Christ. C'est la religion de Caïn. Alors, bien sûr, quand Paul le dit dans Galates au chapitre 4, qu'il en est encore aujourd'hui, comme dans le passé, Les chrétiens nés de l'esprit sont persécutés par les chrétiens nés de la chair. Paul le dit, il en est comme ça encore aujourd'hui, comme hier. Donc c'est une vérité qu'ils sont en train de subir, et il y aura même des morts, hein, il y aura des morts, mais sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. C'est extrêmement important, les amis, de savoir qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent cela. Ça, ce genre d'église existe aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, dans nos pays riches, Amérique, Canada, Europe, l'église d'Éphèse, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Pourtant, regardez déjà le problème qu'elle a. Là, dans beaucoup de parties du monde où l'évangile est annoncé, c'est l'église de Smyrne. Ça, c'est clair. Elle en prend plein la tronche, comme on dit. Et bon, mettons-nous dans la tête qu'il n'y a pas que des synagogues. Quand la religion juive a refusé que Jésus soit mort à la croix pour eux, ils ont inventé un stratagème en disant que les apôtres avaient volé le corps et ils ont mis l'argent aux gardes. Quand on rencontre un rabbin et qu'on cause avec lui, c'est toujours la théorie qu'ils donnent à leur doyen. Oui, ce sont des menteurs. En fait, ils ont été recherchés dans le tombeau Jésus de Nazareth. Bon, tout cela s'est propagé et au contact, il y avait énormément de villes juives en Arabie, dans le désert, etc., avec des forteresses et tout. Ils étaient assez riches, les juifs. Et quand le petit marchand de tissu est passé à droite et gauche, qui avait ses visions, il doutait et il a rencontré des juifs qui lui disait qu'il n'y avait pas eu de Jésus mort sur la croix. Il n'y avait pas de Jésus ressuscité. Il les a beaucoup fréquentés, puis il est tombé sur des chrétiens en Syrie, où Jésus était un homme exceptionnel, un prophète, il n'était pas complètement vraiment Dieu. Et le docétisme, hein, cette doctrine qui fait que Dieu n'était pas, le Christ n'était pas reconnu à la fois Dieu et homme complètement, ça a empoisonné l'esprit de Mohammed. Et puis en plus, quand il est arrivé au 6e siècle à Jérusalem, il faut savoir que le lieu du tombeau et du Golgotha avait été recouvert par un empereur de centaines de mètres cubes de terre. On ne voyait rien. Donc il n'avait pas de preuves visibles, matérielles, de ce lieu d'exécution et de résurrection. Donc c'est une continuité. L'islam est une continuité du judaïsme dur, pour moi. C'est la crainte de Dieu, c'est la manifestation d'œuvres pour être éventuellement sauvé. Et c'est le sentiment que si on accomplit les œuvres, on est en ordre. Donc, il y a de la jalousie entre les gens. Et c'est devenu la religion de la jalousie, l'islam, par rapport au judaïsme. C'est la religion de la jalousie par rapport au judaïsme. Et du prince de la jalousie, de Satan. Donc, dans les deux cas, nous avons un maître qui est le même. Dans les deux cas, nous avons, dans les deux religions, un même prince qui est le même et qui les oppose. Mais sachons bien que les caractéristiques spirituelles de ce prince, de la jalousie, c'est la division, c'est la haine, c'est le mensonge, c'est la séduction, c'est l'accusation. C'est son œuvre. Donc cette église subit des... Et aujourd'hui, s'il y a dans des pays... des religions légalistes, dures, avec des prières, etc., c'est à l'exemple des juifs que ça est né, et c'est quelque chose qui s'oppose immédiatement à la doctrine de la grâce. C'est une contamination venue des opposants à Jésus. Mais c'est pas sur les personnes qu'il faut s'acharner et dire « c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute ». Non, derrière tout ça, c'est simplement le péché. Et nous n'avons pas à être racistes contre un musulman ou contre un juif. C'est simplement le péché, l'ennemi. Le péché qui est dans le cœur de l'homme. Donc il doit être délivré par grâce. L'homme ne peut pas se sauver autrement. Prenons la troisième église. Hein. Donc vous voyez bien au verset 11, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, quand vous avez l'église de Smyrne, vous avez plein d'églises du même modèle, Et l'Esprit parle à ces églises de ce modèle-là. Quand vous avez l'église d'Éphèse, aux églises, il parle à des églises du modèle, du type d'attitude, de comportement intérieur d'Éphèse. Maintenant, la troisième, l'église de Pergame. C'est une église qui est dans une ville où il y a un culte à Satan. Un culte à Satan, mais très puissant. Eh bien, le Christ dit, je sais que tu demeures là où est le trône de Satan. Au chapitre 2, verset 13. Imaginez que quelques chrétiens se réunissent à la Mecque et prient. Imaginez que quelques chrétiens se réunissent dans les villages où on a fondé le vaudou, au Bénin. Il y a des endroits comme ça. Il y a des endroits ainsi qui ne sont pas marrants et des endroits d'adultère spirituel, on appelle ça. Et c'est extrêmement dur. Il faut être armé d'une foi surhumaine qui vient de Dieu. Et donc, il faut faire attention, ça existe. Il y a des endroits qui sont des endroits consacrés à Satan. Dans cette église-là de Pergame, eh bien, il y a des gens, c'est une église, bien sûr, hein, il y a une église, on prie, Jésus-Christ, etc. Il y a, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc, Balaam était un magicien qui venait de l'Afghanistan, qui avait été payé par le roi de Jordanie, Moab, hein, pour maudire Israël. Donc, Balaam était extrêmement doué, c'était un grand médium mondial, et pratiquement de cette région-là. Et pratiquement, Balaam n'a pas pu maudire, il a dû bénir. Il a eu tellement la crainte de Dieu, au moment où il allait le faire, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire. Il a dû bénir et dire un astre brillant qui se lèverait dans ce peuple, pour les nations. Donc c'était le Christ. Et il pouvait maudire tous les autres peuples, mais pas ce peuple. Et donc, dans cette église, il y a des gens qui font de la sorcellerie et qui empoisonnent la vie aux autres, qui ont des relations de médium, des relations spirituelles avec Satan, avec des démons, qui sont là dans l'église et qui font du tort aux autres. Ils provoquent des dépressions, des maladies, ils provoquent des adultères, etc. Ils ne sont pas là au nom de Jésus-Christ ni du Saint-Esprit, ils se sont des loups déguisés en brebis. Et ils veulent compromettre les gens progressivement par des petits détails. Comment ? Eh bien, manger les viandes sacrifiées aux idoles. Quand les chrétiens vont sur les marchés, à Corinthe et autre part, dans toutes les églises, ils trouvent des viandes qui ont été, d'animaux qui ont été tués dans les temples d'Artémis, Jupiter, etc., en sacrifice. Et bien sûr, les prêtres de les revendent font de l'argent. Business is business. Alors, pratiquement, ces viandes, vous pourriez dire, pour quelqu'un qui a une foi superficielle, ça n'a pas d'importance, moi je mange de tout. Bon, ces viandes ont sur elles une application démoniaque. Ok ? Que vous vouliez ou non, tout ce que vous mangez, soit est béni ou n'est pas. Faites bien attention à tout ce que vous mangez, ce n'est pas que le problème des antioxydants et des conservateurs. Il y a aussi ce qui est béni et ce qui ne l'est pas. Vous devez vous habituer à bénir le repas et à prier avant le repas. Vous devez vous habituer à choisir votre repas, votre nourriture, sérieusement. Vous n'êtes pas des descendants des guenons et des singes qui mangent dès qu'ils ont envie. Il faut faire attention, il y a des pièges dans la nourriture. Des pièges, même au niveau diabolique. Et ça, dans cette ville, et vous savez que l'occultisme se répand de plus en plus ici, donc on aura de plus en plus de problèmes avec la nourriture, il faudra faire attention. Et quand ils se sont compromis à manger des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles, eh bien, et après ils se livrent à l'impudicité, donc les troubles sexuels et tout le reste, les dérèglements sexuels. Et là, dans cette église, eh bien, il y avait sans doute des gens qui s'étaient introduits, peut-être même baptisé, hein. On voit ça dans les actes des apôtres déjà, Simon le magicien. Baptisé, oui, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la vérité dans le cœur, l'obéissance à Dieu. Ça ne veut rien dire, le baptême. Vous vous rappelez bien que Jésus l'a dit dans Marc au chapitre 16, verset 16. Celui qui croit et qui est baptisé est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Mais croire, c'est quoi? C'est adhérer à la parole du Seigneur, à sa personne, et mettre en œuvre. C'est pas croire avec les neurones et puis le reste. Donc vous voyez, cette église a des problèmes. Elle est fragilisée par des gens qui sont attachés à Satan et qui introduisent le poison dans le troupeau de Dieu. J'ai été au Bénin, je suis tombé sur une église, l'évangéliste me demandait là, d'y aller. J'ai fait répéter 2-3 fois, des jours d'intervalle, et puis j'ai bien compris, conscience qu'il y avait quelque chose. Et c'est vrai que sur 2-3 000 personnes, il y en avait beaucoup dans un état abîmé au niveau mental. Ils avaient des rêves, des cauchemars et tout ça, et toutes sortes de convoitises au niveau de la nourriture et d'autres choses. Et j'ai dû prier pour eux, et puis à la deuxième prédication, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 sorcières là, très puissantes. Parce que quand je prêchais, elles changeaient, elles cherchaient à m'hypnotiser. Et elles avaient des yeux de feu. Heureusement, dans le jeûne et la prière, j'étais sûr de ne pas fléchir devant elles. C'est elles qui ont perdu la bagarre. Alors, Balaam est dangereux. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me rappelle sortir d'une église évangélique et de voir une femme qui pleurait, qui sortait, qui pleurait à 20-30 mètres, et sous mon secours, etc. Bon, quand j'ai vu, j'ai été vers cette femme, abandonné les autres, et puis se promener un peu avec, et parler, et bien, sa petite fille de 6 ans avait des ombres grises, des grimaçantes dans la chambre, au plafond, et ne savait pas dormir. Je dis, il y a de l'occultisme. C'est peut-être bizarre de ma part de demander ça. Famille évangélique du côté du père et de la mère. Il y a de l'occultisme. C'est possible qu'il y ait de l'occultisme, le texte le dit. Non, je ne me trompe pas. C'est possible. Il y a de l'occultisme. Oui, dans ma famille, il y a eu quelqu'un, etc. Et on pense que... Ma mère a déjà dit, on pense qu'ils nous ont jeté des sorts. Mais je dis, on va prier au nom de Jésus aujourd'hui. Ça a été fini. Terminé. Je suis resté ami avec cette femme parce que c'est une femme très droite et son mari aussi. Mais ça leur a empoisonné la vie. Cette gamine qui ne dormait pas, qui n'arrivait plus, on l'aurait emmenée chez le psychiatre, on aurait donné des médicaments, elle aurait des troubles scolaires et tout le reste. De quoi, si ça se répète dans plusieurs familles d'une église, de quoi faire dégringoler sur son derrière tous les chrétiens, à part l'un ou l'autre. Eh bien, ça, c'est l'œuvre de Balaam, c'est l'œuvre satanique. Par la ruse, par des menteurs qui s'introduisent dans l'Église et qui viennent pour Satan. Je viendrai à toi, je combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, voilà ce que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises. Si je vous parle de ces choses-là, c'est parce qu'elles sont réelles aujourd'hui. Je regarde, j'ai pensé dans la semaine à des choses comme ça. J'ai eu un ami, j'avais fait connaissance sur un chantier, il avait fait la théologie, il était extrêmement intelligent dans la parole de Dieu, il est venu ici, il a arrivé à séduire tout le monde, à me les mettre tout le monde de l'église sur le dos, sauf ma femme et mes enfants. Et je n'arrivais plus à dormir. Je n'arrivais plus à dormir. Jusqu'au jour, j'ai prié le Seigneur, que le Seigneur, que le Saint-Esprit dirige les chrétiens et leur ouvre les yeux. Parce qu'il croyait cet homme. Et il voulait me flinguer. Il a fait ça dans d'autres églises, il a flingué les pasteurs. Et un jour, un chrétien est arrivé en me disant, j'ai bien réfléchi, mais le diable veut ta peau. Ah, tu l'as compris? Oui, oui, explique-toi. Et puis je dis, bon, maintenant dis-le aux autres. Et maintenant, on fera une réunion d'église, on fera une lettre à ce monsieur pour qu'il arrête. On a fait une lettre, avec des passages publics, ça a été fini. Mais il a fait ça autre part. Pourtant, quelqu'un qui avait fait la faculté de théologie, une faculté de théologie protestante, où il y a beaucoup de francs-maçons, comme il y en a aussi chez des moines, chez des prêtres, des francs-maçons. Balaam est bien à l'œuvre, les amis. Ma petite ici, elle avait 3 ans, elle était plus jeune que Lou. Eh bien, j'étais dans mon lit et je souffrais. J'avais été exploité par quelqu'un, un monsieur d'Afrique, qui se disait pasteur, et à qui j'avais versé beaucoup d'argent pour l'aider. Il me tenait parce que j'avais signé un papier. Je n'en pouvais plus. Et d'autres personnes lui donnaient raison. Elle me dit, papa, il faudrait qu'il vienne de... Je ne vais pas dire le prénom, le nom. Il faudrait que... Le prénom, ça peut être possible, Gabriel. Il vient te demander pardon. Donc, papa, il t'a fait beaucoup souffrir. Oui, Satan veut faire souffrir l'Église. Il veut faire souffrir les serviteurs de Dieu. Et je vous garantis que quand on souffre, c'est pas parfois pour 2 jours. Hein. Ça peut durer longtemps. Parce que j'avais fait confiance, humainement, par la chair, à quelqu'un qui se disait chrétien et pasteur. Il n'y a jamais à décider quelque chose sans avoir une conviction du Saint-Esprit. Il faut se méfier des sympathies et des antipathies, des sentiments, de la psychologie. Si vous voulez être dirigé par Dieu, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité vous montre qui est en face de vous. Qu'est-ce qui se cache derrière ce visage et ces belles paroles? Est-ce un vrai ou un faux chrétien? Les amis, je vous le dis parce que c'est dans les temps qui courent de faire des expériences comme ça de plus en plus. Le pasteur Wombrandt en Roumanie, qui a été torturé, qui a été mis en prison, il a dit « c'est pas les communistes qui m'ont fait le plus souffrir ». Il était plus de 30 ans en prison, hein, en subir toutes sortes de choses. Ce sont des gens qui se disaient chrétiens, qui m'ont dénoncé, qui m'ont accusé. C'est ça qui m'a fait le plus souffrir. Pensez bien à Jésus, hein. Il a été lâché par ses disciples. C'est Judas qui a trahi. L'affaire de Judas est fréquente. Et avec Balaam, avec Satan, elle est très fréquente. Donc, l'Église qui subit ça, c'est une attaque en règle. Et pourtant, c'est l'Église de Christ. Il y a donc des gens sauvés et des gens damnés dans le même troupeau. Qui sont en train de chanter les mêmes chansons. Pensez que Jésus, quand il rentre à l'église de Capernaum et de Nazareth, il fait taire des gens. Tu es le saint, tu es le véritable. Il reconnaissait Jésus comme le Messie, alors que les autres ne le reconnaissaient pas. Il les a fait taire et sortir. Donc, quand quelqu'un confesse Jésus, lors de son baptême ou avant, ou après, ce n'est pas pour ça qu'il a reçu l'Esprit Saint. Pas pour ça qu'il a reçu l'Esprit Saint. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, il ne faut dire de Jésus, il est Seigneur, qu'avec l'Esprit Saint. Il n'est pas permis dans une église que quelqu'un dise Jésus est mon Seigneur sans l'Esprit Saint, sans qu'il soit né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas véritablement né de nouveau ne devrait pas prier à voix haute dans une église. Il devrait attendre le jour de sa véritable conversion et de sa véritable vie nouvelle en Christ. Mais si les responsables de l'Église sont aveugles, ça devient un troupeau, une foire, où tout le monde prie et on croit que tout est très bien, Madame la Marquise. Et c'est l'Église de Pergame peut-être, peut-être. Je vous ai dit dimanche passé qu'un couple était venu à notre assemblée et que la femme, c'était un couple pastoral mis à la retraite, de ce qu'ils nous disaient. Ils ont fait l'état d'église. Eh bien, la dame m'avait fait une charte comme ça avec tous mes défauts. Je lui ai dit, vous avez raison. Et puis, c'est tout à fait ça. Je lui ai dit, heureusement que le Seigneur m'aime et m'a appelé. Et qu'est-ce qui est digne? Il fallait le temps d'un ordre trouver un parfait. Jésus n'avait même pas commencé son église. Alors, à la langue, le grand reproche était, pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas prier? Au moment donné où on chante, on prie, tout le monde parlait en même temps, parlait en langue. Et je dis, s'il y en a, au moment où on chante, on prie, certains qui parlent au nom de Satan, comment on les reconnaîtra? Il est clairement dit dans l'épître aux Romains et d'autres épîtres par Paul, qu'on prie en ordre, un après l'autre, pour afin et qu'on entend bien pour pouvoir dire Amen. Que l'Assemblée reconnaisse si ça vient de Dieu ou pas. Pouvoir dire Amen. On n'est pas obligé de dire Amen à la prière de quelqu'un dans une église évangélique. Si on n'a pas la certitude que c'est un enfant de Dieu qui a prié, il vaut mieux ne pas dire Amen. Alors pratiquement, c'est évident, l'Esprit Saint est la clé de l'authenticité. Reprenons l'église de Thyatire. Hein, regardez, l'église de Thyatire, c'est la même chose. C'est un long récit qui se termine comment ? Par quel verset ? Eh bien, au verset 29, chapitre 2, verset 29, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » C'est très puissant ces messages-là, parce que c'est pour aujourd'hui. Et ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est mis un panneau église évangélique ou protestante évangélique que ça ronronne bien, que ça tourne bien. Non, c'est la Bible qui dit si c'est bien ou pas. Ce n'est pas les hommes qui doivent le dire. Il faut être approuvé de Dieu. Alors, l'église de Thyatire, quand vous avez cette vision du Fils de l'homme qui a les yeux comme la flamme de feu, dont les pieds sont semblables à l'airain ardent, vous l'avez déjà au début de l'Apocalypse, au chapitre 1. Et vous l'avez dans Ézéchiel, au chapitre 1 et au chapitre 8. Celui qui est apparu dans sa gloire à Ézéchiel, c'est le même, c'est le Christ. Dans Daniel, de la même façon, quand le Fils de l'homme apparaît dans sa gloire, avec l'écharpe d'or, du faste, etc., c'est le même. Le Christ est éternel. Il a parlé à Daniel au chapitre 10, il a parlé à Ézéchiel au chapitre 1. Et le voilà qui parle à l'église de Thyatire, ce grand Seigneur Jésus. Pas le petit Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit de cette église ? Ben cette église, verset 10, 19, « Je connais tes œuvres, dans tes actions, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Donc, une progression dans un comportement chrétien authentique. Hein ? Mais il y a un gros problème. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, donc là, une femme prend autorité et arrive à conditionner les responsables de l'Église et les amener à manger des viandes qui ont été offertes à des démons, etc., dans les temples, et elle, qui tombe aussi, bien sûr, dans l'impudicité avec ça. Dieu n'a rien contre la femme. C'est clair, c'est lui qui l'a créée. Dieu n'a rien contre la femme. C'est mis clairement dans Galates qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. C'est clair, l'égalité devant Dieu de la femme et de l'homme. Mais regardez bien, dans les journaux et sur la TV, les émissions d'astrologie, de cartomancie, de divination, plein de femmes, 50 fois plus que d'hommes, s'intéressent à l'occultisme. Ça veut dire que quand Satan propose quelque chose qui a l'air alléchant, comme à la première page de la Bible, la femme a accepté la proposition de Satan. Dans notre société, la femme se lance plus vite dans les pièges de Satan que l'homme. On peut trouver des femmes très fidèles au Seigneur, très consacrées à Dieu, mais on peut trouver des bataillons de femmes attachées à la sorcellerie, de toutes formes, dans notre société. Et ils conduisent leurs maris, elles conduisent leurs enfants vers leur perte. Et là, dans l'Église, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui est des prophétesses, enseigner et séduire. Donc, cette femme qui produit l'adultère spirituel n'a pas d'autorité de la part de Dieu, mais l'a prise sur des hommes qui ne sont pas en véritable communion avec Christ. Elle a trouvé la faille, elle a pris autorité. Regardons Hébreux chapitre 3, verset 7. Pourquoi est-ce que dans la théologie moderne, aujourd'hui, autant dans le judaïsme, Autant dans les églises protestantes, et même certaines évangéliques, il y a maintenant des femmes pasteurs. Et pourquoi ça se développe? D'abord parce que beaucoup d'hommes ne s'engagent plus pour servir Dieu comme pasteurs. Ça c'est clair, il y a une razzia, on se demande où ils sont, ceux-là qui vont servir Dieu, au prix de leur vie. Et la deuxième chose, puisqu'il n'y en a pas, nous on va s'avancer. Et l'idée n'est pas mauvaise, puisqu'il n'y en a pas, nous on va s'avancer. Mais l'idée, est-ce que Dieu, lui, le veut? Quand une femme est honnête avec Christ, qu'elle regarde la parole, elle dit non. Je ne serai pas pasteur, je ne serai pas rabbin. Mais Satan va dire, mais non, tu as tort. Vas-y, tu peux parler aussi bien qu'un homme. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'un peu différent quelque part, différent de toi, en dessous de la ceinture, ce n'est pas grave ça. Il n'a pas de privilège avec ça. C'est des machos ça qui disent ça. C'est des machos qui ont inventé ça, qu'il n'y avait que des rabbins hommes et des femmes, des pasteurs hommes. Il faut s'adapter. Il faut acculturer le message. C'était culturellement comme ça. L'homme était dominateur, etc. La femme avait toujours tort. Elle devait se taire. Donc il ne faut plus. Il faut laisser ça de côté. Eh bien, tout ça, ce sont les théories qui courent et qui font qu'il y a beaucoup de courants d'église où la femme a pris autorité. Et même dans les couples. Beaucoup de femmes dans les couples prennent autorité. Il y a une forme d'arrogance, d'impertinence qui rend dans le cœur des femmes. Une vraie chrétienne doit piétiner ça tous les jours si elle veut être à Christ. C'est l'antéchrist qui amène tout ça dans les humains. Chapitre 3 d'Hébreu, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour d'une tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Donc le Saint-Esprit a déjà dit, dans le peuple juif, a déjà dit qu'il y a eu des moments de révolte, des moments d'insurrection contre Dieu, et qu'il ne faut plus le refaire. Et que les chrétiens eux-mêmes doivent tenir compte des expériences qui ont eu lieu et ne pas tomber là-dedans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché est une puissance dans l'homme. Dans notre culture moderne, nous sommes empreints de psychologie. Et on pense que tout est basé sur la psychologie. Mais la nature même du péché n'est pas connue. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas ça. C'est une puissance d'opposition à Dieu qui est venue de Satan, qui est rentrée dans le cœur d'Ève, puis ensuite d'Adam, et qui s'est transmise. Cette puissance est là. Et c'est cette puissance-là qui doit être crucifiée à la croix. Si j'accepte que Jésus a pris cette puissance de mort, cette puissance d'opposition, d'offense à Dieu, sur lui à la croix, si je le crois réellement, alors je meurs à mes prétentions. Je me laisse conduire par Jésus de Nazareth ressuscité et par son Saint-Esprit. Et tous les jours, je dis à Satan, mon péché est mort à la croix. Et prenez garde, 12, frère, que quelqu'un ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Dieu est vivant, il est ici. Alors, pas de séduction venant du péché, c'est sûr. Pourquoi, verset 14, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. La révolte est constitutive de l'être humain depuis le péché d'Adam et Ève. C'est le principe même du péché, la révolte contre Dieu. Le principe même de la désobéissance. Tout acte de désobéissance, tout acte de révolte contre Dieu, contre sa volonté, vient de Satan, via la transmission spirituelle venue d'Adam et Ève. Suis-je ami du péché ou pas? Dans le livre des Proverbes, il est mis clairement que l'intelligence, c'est la haine du péché. Si un chrétien a la haine du péché, il va gagner. S'il veut se faire copain, certains jours, avec ses péchés, sa vieille nature, il va perdre tout. Et c'est ça qui est dit à l'Église, là. L'Église de Thyatire. Ces serviteurs-là se laissent séduire par une femme comme une médium, qui est très forte, qui a un influx mental sur les eux, mais en même temps une puissance de péché tellement séductrice, que, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère spirituel avec elle. Ok? Il y a une sanction directe de Dieu sur ces gens-là. Et je vais vous dire que le parcours de cette église, là, c'est de subir le fléau de Jézabel, qui n'est pas petit. Comme l'église avant, le fléau de Balaam, c'est pas petit. Mais, oh, c'est de l'histoire ancienne, c'est de... Mais non! Pour quelqu'un qui prie régulièrement, qui agit par l'Esprit Saint, quand il visite des églises, il rentre dans les églises, il voit ce qui s'y passe. Habituez-vous à voir ce qui se passe dans votre vie. Déjà, habituez-vous à connaître la volonté de Dieu, à lire la parole, à méditer, et vous verrez en face de vous ce qui est blanc et ce qui est noir. Et vous ne confondrez pas le rose et le rouge, le vert et le bleu. Vous ne confondrez pas les choses. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ça que je veux vous dire. Ne soyez pas des chrétiens, crétins. Soyez des chrétiens profonds, instruits, vivant avec Dieu et ayant une intelligence spirituelle. C'est ça qu'il vient de dire à l'Église. Et qu'il dit à nous. Il dit ça à nous, notre Dieu là, qui parle là. Les amis, il y a une autre Église, c'est l'Église de Sardes. L'Église de Sardes, eh bien, c'est une Église qui est, regardez, au chapitre 3, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, donc certainement des œuvres de charité, etc., des tas de trucs, des belles choses. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Dans cette église, il y a un verdict qui est épouvantable, c'est que l'église est morte. Les amis, c'est dur d'entendre ça. Quand j'ai eu fini l'institut, un des directeurs, je voyais plein d'affiches dans les valves. Il y a telle église à visiter, etc. Il cherche un pasteur, etc. Et ce brave homme était fort profond. Fort profond, c'était un homme, quand on posait des questions sur la doctrine dans le Nouveau Testament et tout ça, sur les textes en grec, il répondait clairement. C'était bien. C'est ça que j'attendais depuis tant d'années. Rencontrer des gens comme ça et de trouver cet enseignement là qui allait jusqu'au bout pour nourrir mon âme et pour pouvoir après aider les autres. Et pratiquement ce qui se passe, je lui dis, mais je vais aller voir, je vais aller faire un tour, je vais aller voir ces églises. Non, Jean, n'y va pas. Essaye, commence avec des gens qui t'aiment, commence avec ta femme et tes enfants, commence avec des gens qui t'aiment, continue à aimer Christ et les pauvres et pas plus. Mais pourquoi? Ils ont presbytère, ils offrent un salaire tout de suite. Parce que moi, pendant plusieurs années, la société missionnaire qui m'aide maintenant, j'avais presque rien. 20, 30, 40 euros. C'est ma femme qui travaillait. Et il y avait les enfants, il y avait des réfugiés. C'est Mylène qui trinquait beaucoup. Avec une grande foi. Pour m'aider à accomplir ce ministère dont on ne voyait pas vraiment l'identité au début. Eh bien, il m'a dit, je ne veux pas que tu y ailles. J'ai prié avec d'autres pasteurs. parce que beaucoup d'églises sont mortes. Tu vas y aller et tu vas te faire descendre. Tu veux trop de choses comme le Seigneur le demande. Tu vas te faire descendre. J'ai eu un choc. Parce qu'il parlait d'église évangélique. J'ai eu un choc. Parce que ce choc me touchait. Je dis, mais c'est pas possible. Je viens de quitter le catholicisme, je me saigne pendant 3 ans. Et puis je... Alors il me dit ça, mais où je vais alors? Alors, pratiquement, cet homme-là n'a jamais été indigne de son ministère, indigne de sa parole. Ça a toujours été quelqu'un de fidèle. Et il m'a dit, honnêtement, j'ai prié avec d'autres pasteurs. Reste dans ta région, commence à zéro. Ceux qui t'aiment travailleront avec toi. Eh bien, je vais vous dire, hein. Vous voyez des belles BMW et des Audi qui passent, vous voyez des gens qui passent avec des vélos, et on vous dit, toi, vas-y à pied. C'est à peu près la même chose. Ok ? Ça veut dire, ben, tu vas en baver, tu vas commencer à zéro, tu vas en baver. C'est presque, tu sautes en parachute, tu sautes de l'avion sans parachute. Moi, on a besoin de sécurité. J'avais besoin d'avoir une structure ou quelque chose. Eh bien, pas de structure, seulement le Seigneur. Eh bien, les amis, sachez-le bien. Une église qui paraît vivante n'est pas forcément vivante. Vous l'avez vu, l'église de Sartre. Et elle paraît être un parachute et confortable pour les âmes. Et c'est un piège. Tenez-vous pour le dit. Alors, qu'est-ce qu'il a mis ? Il y a tout de même quelques personnes là-dedans qui, je veux les sauver, je veux qu'elles aillent au paradis. Sois vigilant, d'eux, et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi, donc comment tu as reçu, entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tant, les vierges folles, qui n'ont pas d'huile dans la lampe. Ils ont la Bible, et ils n'en vivent pas. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans leur vie pour le mettre en pratique. Ni huile, ni Saint-Esprit, ni lumière, connaissance de la vérité. Alors, vous voyez, c'est que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est donc pas une église, c'est, ceci est un modèle d'ensemble d'églises. Ok ? Et les amis, Jésus l'a dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non au péché, non à toutes les œuvres mauvaises. Que ton oui soit oui à Christ, et oui à l'Évangile, au Saint-Esprit. Et tout ce qui est entre les deux vient du diable. Matthieu chapitre 5. Ça vient ça. Regardons l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie... Vous savez, les mots, parfois en grec, adelphos, ça veut dire frère, hein, et philharmonie, hein, philanthrope, c'est ami, ami, hein, celui qui est ami des frères. Hein. Voilà ce que dit le saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, c'est dans Isaïe, ce verset, ça vient de Dieu. Je connais tes œuvres, c'est le Christ, bien sûr, hein. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance. Ben zut, tiens. Là, une église qui n'a pas assez de fric, qui n'a pas de beaux bâtiments, qui n'a pas un beau parking avec une belle voiture de monsieur l'avocat, monsieur le docteur devant. C'est une église qui rassemble des petits. Hein ? Ouh là là. Eh ben, en Afrique, j'en ai vu des tas d'églises, hein. De petits, pieds nus, hein, qui faisaient des kilomètres pour venir au culte. Hein. Et qui restait 3-4 heures au culte. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte du ciel est ouverte par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, la porte du ciel est ouverte. Et je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas et qui mentent. Eh bien, cette petite église évangélique, depuis 70 ans, des pasteurs et des chrétiens évangéliques, on fait des revues, on fait des contacts avec les juifs, et il y a des milliers de juifs convertis à Jésus. De la même façon pour les tziganes, qui étaient une tribu perdue, pour moi en tout cas, les récapitules, les tziganes ont été mis au four par Hitler. Il y avait des raisons du côté de Satan, ils mettent au four, éliminer Israël et les tziganes. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le pasteur Le Gossec a acheté un vieux château avec sa fille et ils ont dit, venez avec vos caravanes. C'est des dizaines de milliers de tziganes convertis. C'est clair, l'église de Philadelphie a fonctionné. Elle a fonctionné. C'est pas du bidon. Je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup. J'ai vu à Bethshemesh, quatre vieux prêtres derrière, sur une colline, là où personne n'irait, sauf pour voir les vieilles pierres, les mosaïques, tombeau de Stéphane, d'Étienne. Et là, ils rentraient, ils sortaient. Nous, les Français, on prend des photos, on s'installe, on adore, on va remontrer ça, on va faire des œuvres, le patrimoine. Hein? On va classer ça à UNESCO. Bon. Eh bien, pratiquement, tout ça, c'est du bidon. Ils passaient là pour aller chercher derrière l'église, sous un toit, des tas de bibles en roumain, en hébreu, en russe, dans toutes les langues du monde, avec le Nouveau Testament. 100 à 110 000 tous les ans, lorsque les prêtres m'ont dit. Si on compte, si on divise la population juive d'Israël par 110 000, on sait combien d'années il faut pour les convertir. Donc le travail est en route, le figuier reverdit. Et ça, c'est clair, les juifs messianiques font partie de l'église de Philadelphie. Vous comprenez? L'église de Philadelphie. Alors regardons bien ce qui est mis au verset 10. Tu as gardé la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc cette église est actuellement opérante et elle va être protégée au moment de l'épreuve sur les habitants de la terre. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, dans quelques années, une épreuve vient sur le monde et ces chrétiens-là sont gardés par Dieu. Ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, dans Thessaloniciens. L'Église de Christ est enlevée. Pas n'importe laquelle. Donc, et regardez bien ce que dit l'Esprit Saint, verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Voulez-vous être de cette église qui aime amener des âmes perdues à Dieu? Voulez-vous être de cette église qui ne se rengorge pas parce qu'elle a des grandes basiliques, des grands temples, des grandes mosquées, des grands sites extérieurs, mais qui a un cœur attaché à Christ et qui veut gagner des âmes à Christ? Voulez-vous être de cette église? Comme au début, au premier et au deuxième siècle de l'église, c'était cette église-là. Voulez-vous être vraiment cette église de Jésus de Nazareth, avec des sandales aux pieds nus, du Fils de l'homme qui n'avait pas de tête de pierre pour reposer sa tête? Voulez-vous être de cette église, ou des églises triomphalistes et triomphantes, qui ont tout perdu d'avance? La dernière église à laquelle Dieu parle, et où l'Esprit Saint dit quelque chose à l'église, c'est l'église de Laodicée. Laodicée est une ville en Turquie où il y a des cascades d'eau douce, du calcaire blanc. Notre Annette les a vues. Hein? Mm-hmm. C'est tous des plateaux, des vasques d'eau. C'est magnifique, bien sûr. Et l'église de Laodicée n'était pas loin de là. Et donc, c'était de l'eau tiède. On peut aller se baigner dedans, il y en a qui y vont. Hein? Et donc, l'Esprit Saint dit, puisses-tu être bouillant ou froid, mais pas tiède. Ben oui, c'était confortable. C'est le christianisme confortable. Le christianisme confortable qui laisse un peu tout faire. Est-ce que ça existe? L'église de Laodicée, c'est une église qui est molle et qui ne voit plus clair. C'est une église qui ne sait pas dire où est le vrai et le faux. Hein? Et au verset 17, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien parce que je ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc tu dois être dans la situation d'Adam et Ève après la chute du péché. Mais tu n'es pas rhabillé des vêtements que Dieu a donné à Adam et Ève, les peaux de brebis, la marque de Christ. Tu n'y es pas, tu es nu. Tu n'as pas en toi la marque de Christ. Il dit ça à l'Église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire l'adoration. L'adoration de Dieu, c'est l'or dans le livre des Proverbes et de la Sagesse. Eh bien, l'adoration éprouvée par le feu. Notre foi doit être éprouvée pour être pure, comme l'or pur. Et revêtu de vêtements blancs, quand Jésus revient, il y a un mariage. Il faut être habillé des œuvres saintes. Et un collier sur les yeux, un collier pour nettoyer les yeux qui sont infectés. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, repends-toi. Vous voyez ce que dit Dieu ici, Jésus, qu'il a de l'amour pour les chrétiens savonnettes qui glissent dans tous les sens. Il a de l'amour pour les chrétiens mollasses, limaces. Il a de l'amour pour les gens qui ne voient rien, qui ne savent pas où ils en sont. Mais ça ne peut pas durer. Il y a pour un temps. Regardez bien. Regardez bien ce qu'il dit. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si donc, à partir du moment où un chrétien, limace, mollasse, entend la parole de Dieu, toc, 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 c'est moi, je t'adresse ma parole, tu ne me reçois pas, tu n'ouvres pas la porte, c'est fini, je m'en vais autre part. Ça veut dire que la chance qui est offerte aux chrétiens, mollasse, limace, c'est d'entendre la parole de Dieu, c'est de l'accueillir, et alors Christ vient dans sa vie. S'il n'entend pas, il n'accueille pas la parole de Dieu, Christ ne viendra jamais dans sa vie. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit dans Jean, dans le chapitre 14 et 15, « Celui qui demeure dans ma parole demeure en moi. Celui qui garde ma parole est aimé de mon Père. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. » Mes amis, c'est tout à fait ça. Je souperai, je mangerai avec lui. Et regardez au verset 22, « Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. » Voilà, j'ai fini les prédications sur le Saint-Esprit pour les églises. Paf, paf, vous savez très bien que le Saint-Esprit, ce n'est pas là pour nous frotter dans le sens du poil, c'est pour nous mettre sur le bon chemin, bien droit, et pour qu'on arrive dans la victoire. Chaque fois, c'est la victoire, hein. Les amis, Dieu ne nous offre pas la défaite. Vous pourrez relire tous ces textes chaque fois, celui qui vaincra sera assis avec moi. C'est la victoire. Le péché, c'est la défaite. Écoutez ce que dit le Seigneur. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Écoutez le Seigneur, c'est la victoire. Ne te laisse pas séduire par ton péché, dit Hébreux. Eh bien, le Saint-Esprit dit ça. Moi, je vais aborder d'autres sujets dimanche prochain. Sur le Saint-Esprit, ceux-là sont importants parce que vous êtes responsable pour d'autres aussi. Si vous voulez qu'un jour, il y en ait trois là, si là, deux là, un là, c'est quand vous serez responsable de vous-même devant le Seigneur qu'ils viendront. Ils viendront quand vous serez responsable du Seigneur devant vous-même. À partir du moment où vous prenez vraiment au sérieux le Seigneur dans tout ce que vous dites, ne vous tracassez pas, vous allez rencontrer des gens, vous allez voir qui a besoin de Dieu, qui n'a pas. Vous aurez du collier sur les yeux, vous verrez. Et vous allez prier pour cette personne, autant qu'il faut. Autant qu'il faut. Et vous l'inviterez. Le Seigneur toque à ta porte. Je vais te donner une Bible. Tu veux que je t'explique ? À partir de ce moment-là, l'autre est responsable. L'autre est responsable. Mais si nous ne faisons pas ça, nous, chrétiens, comment on est dans Romains 10, c'est clairement expliqué. La parole qui est près de mon cœur, la parole qui est près de mon cœur, je dois la confesser. Dans Romains 10. C'est clairement ça que Dieu demande. Le chemin de sanctification, de vérité, et puis après, on porte du fruit. Parce que la parole est vraiment dans mon cœur, elle ne va pas y rester, elle va déborder. C'est comme une fontaine. Le Saint-Esprit devient comme un fleuve d'eau vive. Jésus l'a annoncé, ça, dans Jean chapitre 8. Alors, regardez, Romains 10, verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ça, c'est clair. Celui-là a ouvert la porte. Il mange avec lui, et lui, il mange avec le chrétien. Hein? C'est ça. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, j'y donne tout mon assentiment que nous prêchons. Donc, nous proclamons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ça va de pair, vous voyez? Ça va de pair. Si je crois vraiment que c'est mon Seigneur et qu'il me donne la vie éternelle, c'est normal que j'en parle aux autres. C'est un grand trésor pour les autres. C'est une grande richesse pour le monde. Hmm? Ne nous plaignons pas que le monde va mal. Nous ne pouvons nous plaindre que d'une chose. Devant le pied du Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas pris mes responsabilités pour toi devant les autres. Je n'ai pas pris mes responsabilités dans ma vie pour toi. On ne peut pas se plaindre du monde qui va mal. On ne le maîtrisera jamais. Mais ce qu'on peut dire, Seigneur, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je pouvais pour toi, Seigneur. Je te remercie, j'ai vu que tu m'avais aidé. J'ai pu prier dans mon cœur pendant des heures, tout en travaillant ou dans l'auto pour un tel. J'ai pu, et j'ai le ferme espoir que je vais pouvoir lui parler un jour. 2 mois après, Seigneur, merci, j'ai parlé avec lui. Il m'a écouté. Il m'a invité chez lui. Je vais pouvoir parler de toi. Merci Seigneur, aide-moi. Ça, c'est la parole près du cœur, ça. Et qui sort. Alors, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. L'immense avantage de la vérité, les amis, c'est que nous n'avons pas un esprit et un cœur confus. Nous avons un cœur joyeux et nous n'avons pas des gros nuages là, tout noirs. Nous avons un ciel rempli de soleil. La joie et la foi. Pas comme Hitler. Quand il a fait les Hitlerjugend, il a dit « La joie, la force par la joie !» C'était le message dans tous les Hitlerjugend. Nous, c'est pas la force par la joie. La foi et la joie par Jésus. Amen. Qui veut prier ?